c'est toujours sympa de découvrir quelque chose de nouveau. La tribu te propose donc une émission exceptionnelle.
Bonjour à toutes et à tous et à toutes. Nous sommes bien sur la tribu. Aujourd'hui, nous sommes avec le comité de lecture de la librairie L'Embarcadère. Est-ce que vous allez bien ?
Oui.
Vous n'êtes pas trop stressée ?
Un petit peu.
Ok. Je te laisse continuer, Juliette.
Ok. Donc, notre club lecture, c'était au début juste une occasion de parler de ce qu'on aimait lire et de ce qu'on avait lu récemment pour se faire des recommandations entre nous. Mais ces derniers temps, on a eu l'occasion de faire beaucoup de nouveaux projets, comme par exemple le projet Timbré, qui nous a donné l'occasion de correspondre avec des auteurs, comme par exemple Stéphane Servant, qui a écrit Féline.
Et on va donc vous lire un extrait de Féline. C'est bon, vous êtes prêts ? Je vais vous raconter mon histoire. Même si je sais que ce que je vais vous dire ne changera pas la face du monde, je ne me fais pas d'illusions. Depuis que le monde est monde, il a toujours la même tête et elle n'est pas très jolie. D'autres que moi diraient même qu'il a franchement une sale gueule. On ne peut pas leur donner entièrement tort. Il faut croire que l'homme n'est pas très doué pour la beauté. Pas plus que pour la vérité d'ailleurs. Un jour, j'ai lu que la vérité est toujours confisquée par les plus forts. C'est faux. Elle appartient à ceux capables d'imposer le silence. Justement, je crois au pouvoir de la parole et des histoires, et c'est pour ça que je vais vous raconter ce qui s'est passé. Ce n'est que ma vérité, bien sûr, mais elle vaut bien celle des autres, du moins, c'est ce que je pense. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord, qu'on me refuse même le droit ou la capacité de penser. Mais le fait est que je pense, que j'ai des émotions, que je ris, que je pleure, et que je suis aussi capable d'aimer. Si je suis capable de mourir, vous devez accepter que je puisse aimer, n'est-ce pas ?
Prendre la parole est dangereux. Si on me retrouve, je serai certainement pendue, vous le savez. Vous vous attendez à ce que je vous dise que je m'en fiche, que je n'ai plus rien à perdre, que je suis prête à tout. Vous vous trompez. Cela ne m'est pas égal. Pas du tout. Je veux vivre. Mais aujourd'hui, je dois parler et je suis prête à prendre ce risque. Je ne demande rien en retour. Si vous ne m'aimez pas, c'est votre problème. Je suis comme je suis. Notez bien ça. Je suis comme je suis. Je ne demande aucune grâce. Je n'implore aucune pitié. Surtout pas. Je vais vous raconter mon histoire parce que nous nous sommes tus depuis trop longtemps, bien trop longtemps. Je ne parlerai pas pour vous, je parlerai pour nous toutes. Et quand vous serez prêts, je commencerai. Vous êtes prêts ?
Bravo ! Merci pour cet extrait qui était d'une très bonne qualité de lecture.
La musique là.
Ah, excusez-moi. On continue dans la tribu avec TV Girl The Blondes.
Attention to the redheads.
toujours dans la tribu, nous sommes encore une fois, enfin toujours, avec le comité de lecture de la librairie L'Embarcadère. C'est cette semaine, ou pendant plusieurs semaines, les 10 ans de la librairie L'Embarcadère. Et à présent, nous allons pouvoir écouter les chroniques.
Et on commence avec Léontine qui va nous parler de l'œuvre d'Anne-Laure Bondou, l'édition Gallimard Jeunesse, Nous traverserons des orages. Vas-y.
C'est en 1914 que commence l'histoire, à l'aube de la Grande Guerre. De ce conflit, d'autres suivront jusqu'en 2022. Cette toile de fond est portée par la présence des personnages qui nous entraîneront dans surtout des difficultés et parfois des moments de joie et les secrets d'une famille sur plusieurs générations. On a du mal à les quitter, ces personnages, on s'y attache. Ils grandissent au fil des pages et nous font grandir. C'est captivant, et si on est bien obligé à un moment donné de refermer le livre, c'est avec beaucoup de difficultés. Alors on en fait quelque chose de ce roman d'Anne-Laure Bondou. Publié chez Gallimard, on réfléchit, on repense à Marty, Charme, Aloès, Olivier ou encore Saul, à tout ce qu'ils ont vécu, aux combats qu'ils ont menés, guerre, suicide, sida, au renoncement. Et on se dit que même si parfois on traverse nous aussi des orages, les liens entre les membres d'une même famille sont tellement forts qu'ils nous permettent souvent de sortir indemnes de la foudre. Et si vous ne l'avez pas déjà lu, L'Aube sera grandiose, de la même autrice, est un retour sur l'histoire d'une mère à sa fille, un roman tout aussi poignant.
Merci Léontine, et on enchaîne avec la chronique d'Anna.
Bonjour, je m'appelle Anna, et je vais vous présenter par intermédiaire de la radio Attribu un songe à la douceur de Clémentine Beauvais, des éditions Sarbacane. Ce livre, plein d'amour et de douceur, raconte l'histoire de Tatiana et Eugène. Ils se connaissent depuis l'enfance, et Tatiana est amoureuse d'Eugène depuis toujours. Ils se perdent de vue, mais se retrouvent par un heureux hasard, une dizaine d'années plus tard. Ils tombent amoureux, enfin. C'est un amour tourbillonnant qui va commencer son histoire dans la rue, avec un t-shirt bébé à bord et un discret bonjour. J'ai adoré cette histoire, écrite en vers et remplie de joie, et donne envie d'aimer, d'être aimé et d'être heureux.
Merci Anna, et maintenant c'est la chronique de Kayla.
Bonjour, je m'appelle Kayla, et je présente le livre de Marie Cellier, À nous trois. La maison d'édition est Casterman, et Marie Cellier est une écrivaine et scénariste qui écrit depuis longtemps pour les jeunes et les moins jeunes. Elle a publié plus d'une centaine d'ouvrages, parmi lesquels de nombreux livres d'art. En effet, Marie Cellier est convaincue que l'art n'est pas un luxe, mais une nécessité, et que tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Elle s'intéresse par ailleurs aux relations intergénérationnelles, notamment au sein des familles. On retrouve aussi cela dans À nous trois. À nous trois, c'est donc l'histoire de trois jeunes filles qui font leur rentrée en troisième. Elles ne se connaissent pas encore et ont toutes trois un passé bien différent. Angèle, Lily et Mina souhaitent recoller les morceaux. Chaque chapitre du livre est dédié à une personne, donc soit Angèle, soit Lily, soit Mina, qui sont les personnages principaux. Cela entremêle trois voix de filles et dessine les contours d'une amitié unique. Une des trois belles phrases de ce livre, et celle que je pense qui illustre le mieux leur amitié et leur combat, est « On a beau être fracassé, à trois, on n'a plus peur de rien. Trois, c'est beaucoup plus que 1 plus 1 plus 1. Trois, c'est l'infini. » Angèle est une jeune fille douée mais qui n'a pas confiance en elle, et elle cherche la force d'affronter son histoire familiale compliquée. Lily, quant à elle, essaye de se reconstruire à la suite d'un harcèlement. Elle adore danser. Et Mina cherche à comprendre qui elle est. Elle vit avec sa grand-mère, et sa mère étant morte lorsqu'elle était petite, elle n'en a pas beaucoup de souvenirs. Ce qui m'a bouleversée dans cette histoire, c'est qu'elle est vraiment sincère, et qu'elle nous montre que l'on peut changer ou bien se reconstruire, et que dans la vie, l'amitié est très importante.
Merci à toutes les trois. Maintenant, moi, je vais vous poser une question. Pourquoi vous avez choisi de présenter ce livre, Léontine?
Alors moi, j'ai choisi de présenter ce livre parce que c'est un livre que j'ai trouvé super intéressant, parce qu'il est dans le temps, il commence en 1914 et il se finit en 2022. Et c'est une même famille, donc c'est de père en fils, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre.
Ok, merci. Anna?
J'aime beaucoup ce livre parce que j'aime en général beaucoup les histoires d'amour et que j'aime la façon dont il est écrit, en vers, et que j'aime beaucoup l'autrice, Clémentine Beauvais.
Ok, merci. Kayla?
Moi, j'ai vraiment aimé ce livre, enfin, c'est pour ça que j'ai choisi aussi, parce que ça parle d'amitié et que pour moi c'est quelque chose de très important dans la vie, parce que je trouve que ça peut vraiment nous aider. Et Marie Cellier, elle écrit très bien, enfin, j'ai lu beaucoup d'extraits d'autres extraits de ses livres, et c'est vraiment une auteure super.
Merci. On fait une pause musicale, donc c'est REM, Losing My Religion.
Comme un ballon à la tribu.
On est toujours sur la tribu avec le comité lecture de la librairie à l'Embarcadère. Et cette année, cette librairie fête ses 10 ans et elle prévoit pas mal d'événements, dont les Irréductibles, la fanfare d'Aristide Briand, qui se représenteront à 16h et à 19h aujourd'hui. Et donc on va enchaîner avec les chroniques littéraires toujours. Donc c'est Juliette qui va nous parler des enfants, donc de les enfants des Feuillantines, à l'édition Roman Sarbacane.
Alors, Les Enfants des Feuillantines, de Célia Garino, est l'un des premiers livres que j'ai lu grâce à notre club lecture à l'Embarcadère. Ce livre, c'est l'histoire d'une famille, la famille Mortemer. Elle commence avec trois sœurs au destin tragique. L'une se suicide, la deuxième décide un beau jour de disparaître, et la troisième tombe dans l'alcoolisme et se fait interner dans un hôpital psychiatrique. Elle laisse derrière elle 8 enfants qui désormais vivent ensemble dans une grande maison sur une falaise, en Normandie. Dans ce livre, sorti en 2020, vous allez à votre tour devenir un membre de cette famille. Vous allez vous attacher à ces enfants perdus comme à de petits frères ou à de petites sœurs, et vous allez vivre avec eux leurs aventures du quotidien, leurs tourments et leurs joies. Cette grande histoire familiale, on la découvre à travers 8 petites histoires individuelles. La narration alterne les points de vue entre tous les membres de la famille et aborde des thèmes difficiles comme le harcèlement ou l'entrée dans l'adolescence. Ces histoires se croisent, se coupent et s'entremêlent et nous livrent un tableau qui fait chaud au cœur. Si, comme le disait Neil Gaiman, les livres sont un rêve que l'on tient dans la main, alors celui-ci est le rêve d'un rayon de soleil dans le ciel normand et je ne peux que vous le recommander.
Merci Juliette, et donc on enchaîne avec Tess qui va nous présenter « Mille Pertuis » de l'édition Gallimard.
Le livre que je vais vous présenter s'appelle donc « Mille Pertuis » et il a été écrit par l'écrivaine Juliette Evenot. Mais d'abord, je voudrais vous parler d'une autre de mes lectures, un texte de Clémentine Beauvais, publié chez La Martinière Jeunesse dans la collection Alt, et ayant pour titre « Comment jouir de la lecture ». En résumé, ce texte explique qu'au lieu d'apprécier simplement un livre, on peut y prendre une véritable jouissance si l'on connaît, nomme et analyse nos plaisirs de lecture. J'ai donc réfléchi à ce sujet, et je peux désormais affirmer que Mille Pertuis a été pour moi une véritable jouissance de lecture. Mille Pertuis, c'est l'histoire d'une petite sorcière qui s'appelle Horty et qui est née dans une fratrie avec deux autres sœurs, toutes sorcières. Elle vit dans un monde au milieu des communs, c'est-à-dire les humains, et il y a c'est un secret, le fait qu'elle est une sorcière, elle ne doit le révéler à personne. Et évidemment, un jour elle va faire une bêtise qui va l'amener à vivre de fabuleuses aventures pour notre plus grand plaisir. Mille Pertuis, c'est un roman surprenant, un roman qui mêle la magie ancestrale avec le liquide vaisselle. C'est un roman qui fourmille de mots géniaux et loufoques, de mots qui pétillent quand on les lit, de mots à rallonge, bourrés de suffixes et de préfixes comme bizarroïde ou tintinabulé. Chaque page est parsemée d'une multitude de petits détails, de descriptions étonnantes et d'adjectifs rigolos qui ont allumé dans mes yeux la lueur de satisfaction d'une prof de français face à un texte bourré de figures de style. C'est pour ça que je trouve que Mille Pertuis est un livre très intéressant, chacun peut y trouver son compte. Si vous êtes un adepte de fantastique, que vous adorez les histoires de magie et de sorcières, vous apprécierez Mille Pertuis. Si vous avez une âme d'enfant, que vous vous délectez des situations farfelues, vous adorerez Mille Pertuis. Si vous rêvez d'héroïnes originales, à la fois culottées et sensibles, féministes sans le savoir, qui ne sont plus des enfants mais pas encore totalement des adultes, vous kifferez Mille Pertuis. Mille Pertuis, c'est un roman que l'on peut lire sous 1000 prismes différents. Vivement le tome 2 alors.
Merci Tess, et du coup on enchaîne avec la chronique de Mati.
Bonjour, donc moi j'ai présenté Le Gang des Prodiges, écrit par Marissa Meyer et édité par Pocket Jeunesse, le 1er février 2018. Les prodiges sont des humains dotés de pouvoir. Avant, les prodiges étaient traqués, torturés, puis tués. L'ex-anarchie changea les choses. Avec un groupe de prodiges surpuissants, il se rendit chez chaque gouvernement pour le détruire. Après cela, le monde fut plongé dans un chaos. Plus personne ne faisait appliquer des lois inexistantes. La loi du plus fort s'installa. C'était le début de l'ère de l'anarchie. C'est alors que les renégats, des prodiges rassemblés pour faire régner la justice, apparurent. Ils commencèrent par écraser les anarchies, puis par mettre fin au chaos. Voilà un résumé du premier chapitre. Dans cette trilogie, nous suivons Adriane, alias La Sentinelle. Son pouvoir est de donner vie à ses dessins. Et Nova, alias Nightmare, son pouvoir est d'endormir les êtres vivants avec un simple contact. Adriane est le fils des deux chefs des renégats. Nova est la nièce d'Ace Anarchy. Nova fait partie de ceux qui restent des anarchistes. C'était le nom qu'on donne aux partisans d'Ace Anarchy. Nova va donc s'infiltrer dans les rangs des renégats sous la couverture d'un zombie. Ironie du sort, Nova et Adriane tombent amoureux. Ce livre est en même temps drôle, triste et épique. Il contient une super histoire d'amour. Ce livre nous fait réfléchir aux nuances. Dans l'histoire de super-héros, généralement, ce sont les gentils super-héros et les méchants super-vilains. Là, chaque camp a du bien et du mal. J'ai donc beaucoup aimé ces trois livres que je vous recommande fortement.
Merci à vous trois. Donc, même question que tout à l'heure, pourquoi vous avez choisi de présenter ce livre, Juliette ?
C'est un de mes livres préférés. Je trouve que c'est vraiment un livre qui fait se sentir bien quand on lit, donc j'avais envie de partager ça.
Merci, Tess.
Moi, j'ai choisi Millepertuis parce que c'est mon dernier coup de cœur en date. Donc, c'était celui qui était le plus frais dans ma mémoire et celui dont je pouvais parler le plus facilement.
Ok, et Mati ?
Alors moi, je me promenais dans la bibliothèque en recherche de nouvelles lectures. Puis je l'ai vu et tout de suite, il m'a sauté au cœur. Donc directement, quand j'ai su qu'il fallait choisir un livre, je me suis dit, bah celui-là.
Ok. On fait une pause musicale avec du coup Britney Spears, pardon, Toxic.
Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it.
Toujours dans la tribu avec le comité de lecture. Non, il y a Adeline qui me fait des signes, je comprends pas. Donc vous aviez des petites questions pour nous et voilà. Donc est-ce que vous voulez commencer ou est-ce que vous voulez qu'on commence? On commence? Ok.
On va commencer.
Ok. Qui veut poser la question?
À vous, hein. Je les ai pas devant les yeux, donc ça va être compliqué.
Ah, pardon.
Alors, première question. Est-ce que vous avez en tête un livre qui vous a vraiment transporté dans un univers... dans l'univers du livre, quoi. Est-ce que vous avez une idée?
Moi, je dirais que c'est Millepertuis. Du coup, on va rester dans la chronique que j'ai faite. Parce que autant la première partie du livre, elle se passe plutôt dans le monde des communs, donc des humains, autant vers la fin du livre, la deuxième partie, on entre complètement dans un univers différent, beaucoup plus fantastique. Et donc c'est cet univers-là, je dirais, qui m'a transportée dernièrement.
Moi, je dirais que c'est Sauveur et Fils de Mario Murail, parce que le 12 rue des Murlins où ils habitent, c'est comme un autre monde, même si c'est pas un livre fantastique, c'est comme si on rentrait dans un autre univers.
Moi, j'ai lu un livre qui s'appelait La forêt pour te dire. Et même si c'était pas en soi le plus gros coup de cœur que j'ai eu derrière moi, je me suis prise à réfléchir ou à parler comme les personnages et ouais, je me suis vraiment sentie transportée dans un autre univers.
Vous avez d'autres idées ou...
Moi, c'est Malamander. Parce qu'il n'y a pas vraiment un moment où le livre te laisse un petit peu de répit. Du coup, t'es toujours dedans.
Ben, moi, personnellement, c'est Harry Potter. Un peu basique, mais tu rentres vraiment dans un autre monde. Tu t'es vraiment transporté à Poudlard. Moi, j'ai vraiment aimé. Je les ai lus il y a longtemps, mais ça, je m'en souviens que ça m'avait transporté.
Je peux dire un truc par rapport à Harry Potter? Parce que du coup, moi aussi, je l'ai lu. Et je trouve... parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment... Bah, Steve, il est quand même connu, Harry Potter, il y a eu plein de films. Ça reste quand même une référence des livres d'aujourd'hui. Mais je trouve par rapport à la façon d'écrire aussi de J.K. Rowling, elle est en fait assez précise et elle détaille énormément. Et c'est ça qui fait que du coup, bah, on rentre facilement dans l'univers et dans... Bah, on n'imagine pas non plus, comme dans les films, les personnages, et du coup c'est ça qui est bien aussi dans le livre, c'est que du coup bah ça aussi qui est dommage en fait dans le regarder en film, parce que du coup on voit les personnages, mais je trouve que dans son livre en fait elle est aussi très précise, comme elle nous laisse quand même une part d'imagination. Voilà.
Bah oui, t'as totalement raison, je trouve, Sacha. Et justement, je voulais savoir aussi qu'est-ce qui vous plaît dans la lecture en général.
De pouvoir lire, d'avoir des piles de livres à l'infini et de pouvoir lire sans t'arrêter plein de styles différents, des plus ou moins grosses lectures et de pouvoir changer de monde juste en tournant une page.
Moi, je dirais que c'est pour les émotions, parce que je trouve que... Alors ça, c'est aussi toutes mes émotions, je les remets entre le style d'écriture de l'auteur, donc s'il écrit mal, bah, c'est sûr que ça va me faire ressentir moins d'émotions. Mais ce qui me plaît dans la lecture, c'est tout ce que ça me fait ressentir.
Je suis assez d'accord avec Tess, j'aime bien la possibilité de se mettre à penser comme quelqu'un d'autre ou de découvrir un autre monde rien qu'en lisant un livre ou juste en écoutant un livre audio. C'est agréable en fait... de pouvoir ne pas vraiment être soi quand on lit.
Et en fait, moi je trouve que c'est comme si ça nous grandissait, parce que c'est comme si là j'ai que 15 ans, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vécu beaucoup d'aventures différentes et d'avoir appris plein de choses différentes sans vraiment les avoir vécues en présentiel. Mais c'est comme si en lisant, bah, j'avais appris plein de choses et qui vont me servir pour plus tard, je pense.
Moi, c'est écouter des histoires. Je trouve ça super intéressant. Parce que c'est en même temps on est là, en même temps on n'est pas là. Donc, je sais pas, c'est téléportant un peu.
Moi pour le coup, c'est bah, un peu comme Anna. Ça me permet aussi de sortir du monde réel et je trouve que ça. Bah, du coup, comme les filles, ça fait ressentir d'autres émotions. Et comme Juliette, elle a dit, bah, t'es pas vraiment toi en fait. Moi je me sens un peu transportée dans chaque livre que je lis en fonction. Bah, c'est vrai que c'est souvent ce qu'il écrit l'auteur aussi, mais c'est pour ça que j'adore les livres fantastiques, moi, parce que c'est vraiment un autre monde pour moi et ça me fait du bien de sortir un peu du monde réel.
Ben, moi, je suis d'accord avec les filles aussi, ça fait vraiment du bien de sortir du monde et d'être transportée ailleurs pour être tranquille, transportée ailleurs.
Qu'est-ce que c'est pour vous un bon livre? C'est quoi les critères pour qu'il y ait, pour qu'on ressente de l'émotion, des choses comme ça?
C'est très vaste.
C'est
une
bonne question.
Bah, il faut que. Enfin, moi, je pense que. J'aurais tendance à dire qu'il faut que ce soit drôle. Mais j'ai pu lire des livres et les adorer sans qu'ils soient drôles. Donc, j'ai envie de dire qu'ils soient puissants.
Ils s'engagent à me faire ressentir une émotion. Bah, j'espère qu'ils vont le respecter et que ça va pas être quelques larmes que je vais verser, mais vraiment que je vais pleurer à gros bouillons.
Je pense qu'il faut que l'auteur réussisse à nous emmener là où il veut nous emmener. Et du coup, ça fait que les attentes qu'on a pour chaque livre, elles sont différentes. Par exemple, en lisant Harry Potter, moi, j'avais envie d'imaginer un autre univers, et c'est exactement ce que lui fait. Du coup, j'ai adoré. Et en lisant, je sais pas moi, Les Enfants des Fluentines, dont je parlais tout à l'heure, j'avais envie de découvrir une famille, de me sentir bien avec les personnages, et c'est exactement ce que lui fait, et donc j'ai aussi adoré.
Moi, pour le coup, c'est... Bah, en fait, un peu comme Tess, j'aime bien quand c'est drôle, ou voilà, autant j'ai pu lire des livres où j'avais vraiment envie de pleurer. Mais c'est surtout, pour moi, le critère vraiment, c'est... Même dans le résumé, faut que l'auteur, il nous fasse ressentir genre vraiment quelque chose qui est vraiment... qui cherche à faire passer un message derrière ce qu'il écrit. Et pour moi, ça, c'est hyper important.
Je vais juste rajouter quelque chose dont j'ai un petit peu, enfin que j'assume pas totalement parce que c'est pas extrêmement féministe, mais en ce moment j'ai besoin d'histoires d'amour dans les livres. Genre un livre sans aucune histoire d'amour, ça me déçoit un petit peu. Donc c'est pas extrêmement féministe de dire ça, mais s'il y a une histoire d'amour, je pense que c'est encore mieux pour moi.
Pourquoi est-ce que c'est pas féministe ?
Parce que c'est en gros, en tant que fille, je peux pas me passer de l'amour dans les livres en fait.
Ouais, mais peut-être qu'en tant qu'homme, on peut ne pas se passer de l'amour non plus.
Bah, j'espère pour les hommes, j'espère que les hommes autour de la table peuvent témoigner.
Ah oui, et moi des fois j'aime bien quand il y a des livres avec des histoires d'amour. Non, en vrai, je trouve que des fois ils sont quand même beaucoup plus réussis dans les livres. En fait, il y a des livres où on a l'impression qu'il va y en avoir, mais il n'y en a pas du tout. Il y en a d'autres où il y en a, mais. Ça s'arrête à un moment parce que le livre se finit, soit je sais pas, il y a une rupture, ou sinon il y a des livres où c'était que ça. Parce que moi du coup j'ai lu pas mal de livres où il y avait que ça, et c'est pas que j'aime pas, hein, mais c'est que j'aime bien quand il y a aussi une autre histoire que ça en fait, quand c'est mélangé avec.
Je suis d'accord, si c'est juste l'histoire d'amour au bout d'un moment c'est énervant parce que t'as envie de dire qu'il y a rien qui se passe à part ça. Mais, je veux dire, un roman qui est drôle, qui va me faire pleurer, où il y a une histoire d'amour et de l'aventure, je pense que là, c'est le jackpot.
Je pense que, de manière générale, un bon livre, c'est un livre qu'on va pas oublier et qui laissera une trace dans notre manière de penser, de réfléchir et de rêver pour toujours.
Moi, je pense qu'un bon livre, c'est un livre où on ressent l'émotion du personnage. Où, par exemple, quand le personnage va pas comprendre, nous non plus, on va ressentir un peu cette émotion d'incompréhension. Aïe. Ah.
Est-ce qu'un bon livre, c'est un livre qu'on a envie de partager ?
Oui, ça dépend.
Bah oui, c'est sûr.
Ça dépend.
Mais des livres plus personnels. Ouais. Où tu te dis, ah tiens, ça, on dirait un peu moi, on va dire. Tu te reconnais un peu l'histoire, du coup, on va dire que ce qui se passe dans l'histoire, tu le prends un peu plus personnellement. Et t'as pas très envie de partager.
Je pense qu'en termes de livres, on peut pas faire de généralité, en fait. Je pense que ça va vraiment dépendre des sujets abordés et que ça va dépendre de chacun.
D'ailleurs, t'as parlé tout à l'heure, il y a 2 secondes, hein, du fait que tu te reconnaissais dans les histoires. Et du coup, on avait une question par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de livre où vous êtes reconnu dans le livre ? Ou vous avez reconnu quelqu'un, peut-être aussi ?
1000 Pertuis. Pour moi, c'est 1000 Pertuis. L'héroïne, Horty. Je suis un peu comme elle. Un peu... Pas... Je sais pas comment expliquer, mais... Je fais des bêtises. Je sais pas dire ma langue. Et... Je fais un peu n'importe quoi. Des fois, tout le temps même. C'est un peu moi.
Ok. Il y a quelqu'un d'autre ou pas ?
Oui. Vas-y. C'est un peu tous les livres où j'essaie de faire des rapprochements avec des gens que je connais. Et je sais pas forcément pourquoi, mais dans tous les livres, je trouverai quelqu'un que je connais et je me dis « Ah, lui, il ressemble à lui. »
Oui, j'avoue. Parce que moi, en fait, là, j'ai pas le titre du livre, voilà. Mais j'ai un ami qui me suit depuis pas longtemps, mais voilà.
qui a changé depuis peu. Et c'est vrai que dans un livre, genre, j'ai vraiment reconnu cette personne que j'adore et qui a changé en bien, et voilà. Mais c'est vrai, enfin, je suis un peu comme Mathie, je reconnais dans certains livres beaucoup de personnes, et même si des fois il y a des... Enfin, il y a des changements ou qu'il y a des trucs où tu te dis « Ah bah oui, bah non, ça, cette personne-là, elle le fait pas. » Au final, j'arrive toujours à faire le rapprochement.
Moi, personnellement, je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Holden Caulfield dans l'attrape-cœur. Voilà.
Ok, bah, on avait une dernière question pour vous. C'était qu'est-ce qui vous donne envie de lire ou d'acheter un livre au premier abord? C'est la couverture, le résumé. Si vous n'avez pas lu le livre, donc qu'est-ce qui vous donne envie d'acheter un livre et pas l'autre?
Ou de le prendre, hein, si vous le prenez en médiathèque aussi.
Ok.
Moi, c'est tout de suite le titre, déjà, sera le premier choix. Et ensuite, deuxièmement, sera la couverture.
Pareil, le titre, d'abord, parce que. Autant la couverture, ça permet déjà d'avoir une idée, mais ça peut pas forcément être 100% fiable, parce que des fois, ça peut être une couverture qui est faite donc par un illustrateur qui n'a absolument rien à voir avec l'auteur, et qui n'a... Enfin, des fois, il y a des couvertures qui sont très très réussies, par exemple la couverture 2000 Pertuis, qui est un livre que je vais défendre jusqu'au bout de cette émission. Mais il y a d'autres couvertures qui sont pas du tout réussies, et donc je vais pas trop juger sur la couverture quand même, et je vais donc juger sur... le titre, parce que le titre, j'imagine que c'est l'auteur qui le choisit quand même, et je choisis si le titre est original. S'il est drôle, c'est encore mieux, mais il y a rarement des titres qui sont drôles. Mais original, si ça fait trop cliché, trop film d'amour américain Netflix, je prends pas.
Et du coup, vous n'êtes pas du tout intéressé par le résumé, ou vous le lisez quand même?
Ah si, le résumé, ça vient immédiatement après.
Bah moi, pas forcément.
Moi non plus, pas le résumé. C'est plutôt la première phrase.
Et pourquoi pas le résumé? Ça vous intéresse pas de connaître le but de l'histoire?
Parce que les résumés, ils sont... Des fois, ils sont... Ils résument pas bien.
Oui, j'avoue, je suis d'accord avec Anna. Bon, moi, j'ai un critère hyper bizarre. Mais alors, vraiment, qui est très bizarre, c'est l'odeur du livre. Mais je sais pas d'où je tiens ça. Mais en fait, il y a une odeur particulière pour chaque livre que je trouve. Il y a un livre dont je peux pas me passer, c'est Gardien des Cités Perdues. Il y en a pas beaucoup... Enfin, il y en a certains au collège qui disent... Oui, non, mais c'est très enfantin et tout ça. Mais l'odeur de ce livre m'a tout de suite attirée. Et vraiment, c'est un critère très bizarre, mais j'adore. Enfin, c'est un des critères les plus importants selon moi, donc...
Du coup, tu renifles tes livres?
Ouais, d'une certaine manière, mais pas comme un chien va renifler par terre. Voilà. Mais c'est à peu près ça. Ouais.
Après, des fois, les résumés, ils sont un peu... attractif des fois pour pas grand chose, ou quand la personne qui va écrire le résumé va faire en sorte que quand tu le lises tu veux tout de suite lire du coup le livre, alors que des fois le résumé finalement il te décrit la moitié du livre, donc oui c'est intéressant, mais tout le livre n'est pas forcément intéressant.
Léotine, t'as une idée?
Moi personnellement je regarde l'auteur en général. Je regarde l'auteur, c'est un auteur que je connais et que j'ai déjà lu un livre qui m'a plu de cet auteur, et ben je vais être intéressée par le prendre tout de suite.
Moi pas du tout, parce que je retire jamais le nom des auteurs en fait. Genre je peux me dire par exemple, oh là là, bah ce livre-là il a l'air trop bien, je regarde l'auteur et là je suis là, ça me dit quelque chose, et au final j'ai jamais lu cet auteur-là, mais jamais je m'en souviens en fait. C'est pas le truc le plus important. Autant sur certains livres, si, qui sont très connus, par exemple J.K. Rowling... là, je reconnais tout de suite et j'adore. Mais par contre, c'est pas un critère valable pour moi, parce que, par exemple, Harry Potter, il y en a beaucoup qui adorent sur... je pense que les trois quarts du monde adorent ce livre. Mais, enfin, J.K. Rowling, elle écrit très bien. Harry Potter, j'ai adoré. Par contre, Lee Cabog, il m'a vraiment perturbée. Enfin, j'ai pas du tout accroché sur ce livre. Donc, pour moi, c'est pas vraiment l'auteur, le critère valable.
Mais c'est l'odeur.
Ouais, c'est ça.
Moi, ça sera qu'avec certains auteurs. Donc, par exemple, pareil, si je vois J.K. Rowling, je vais un peu m'en ficher. C'est-à-dire, c'est toute l'histoire qui m'intéresse. Par contre, c'est un de mes auteurs préférés. Et je sais que je prends directement le livre.
Et donc, c'est quoi vos auteurs préférés?
Marie-Anne Mireille.
Clémentine Beauvais. à qui, enfin, je répète à tout le monde que c'est un génie des temps modernes, donc Clémentine Bauer.
Stephen King.
J'en ai presque aucune idée, mais il y a une auteure que j'adore, c'est Shannon Messenger.
Marion Murray aussi.
Marion Murray aussi, je pense, ou Mary Pavlenko peut-être.
Bah, merci beaucoup. Je crois que ça va être à vous de nous poser des questions maintenant.
Ouais.
Les mêmes ou des différentes?
Non, les nôtres.
Ouais, il y avait celle-là, je crois.
Alors, est-ce que vous auriez un exemple d'un livre qui vous a fait pleurer dernièrement? Ou même pas dernièrement?
Moi, j'ai une idée. Ça s'appelle... C'était Les Impatientes. Alors, j'ai plus l'autrice, mais... C'était la deuxième histoire. J'ai plus non plus le nom de personnage, mais vraiment... C'était hyper touchant, en même temps violent, touchant et triste. Et du coup, bah, ça m'a fait pleurer comme pas possible. Voilà.
En ce moment, moi, je suis dans ma période de manga. Du coup, il n'y a pas vraiment de manga qui font pleurer. Du coup, non.
Moi, c'est Le Combat d'hiver de Jean-Claude Mourvela, c'est ça?
Ouais.
Oui, voilà. Et je l'ai lu en fait avec mon collège et ça a été une découverte. Et il m'a vraiment ému ce film et ce livre et j'ai vraiment bien accroché.
Moi, c'est un peu bizarre, je me souviens de l'auteur, mais pas du tout du titre. Parce qu'en fait, je l'ai lu il y a longtemps, mais en fait, je me souviens encore totalement d'histoire. C'est un livre de Michel Bussy.
Michel.
Oula, pardon, excusez-moi. Mais je sais plus comment il s'appelle, par contre, le livre. Mais en gros, ça parle de... en gros, qu'il y a une radicalisation du monde et qu'il reste des survivants. Et qu'en gros, après, ils font leur vie. C'est un peu bizarre, mais... En fait, il se place plein de trucs et voilà.
Du c'est coup, pas j'ai... que les enfants, les survivants.
Oui, avec.
C'est Néo, normalement.
La Tour Eiffel,
ah oui, ouais, c'est ça.
Ouais, il m'a beaucoup ému ce livre aussi.
Moi aussi.
Est-ce que vous auriez un livre que vous n'avez pas pu lâcher à citer?
J'ai pas compris la question.
Un livre que vous n'avez pas pu lâcher. Vous étiez complètement addict au livre.
Moi, c'était tous les Harry Potter. Hein. En fait, j'ai commencé le 1. Et en fait, j'ai pris une année pour le lire. J'ai pris énormément de temps parce que je faisais plein de trucs en même temps. Et en plus, je lisais avec ma classe de CM2, donc c'était il y a longtemps. Et en fait, on faisait une partie par jour et c'était super long. Et du coup, en fait, après, comme j'avais rien compris, je l'ai relis. Je me suis dit, relis, si.
Relis,
pardon, excusez-moi. Et en fait, j'ai adoré. Et après, j'ai enchaîné tous les autres super rapidement. Et des fois, ça m'arrive de les relire. Je sais pas pourquoi.
Moi, c'était... alors, c'est pas un livre, c'était une... Enfin, c'est un livre quand même. C'était un roman graphique. C'est Bobigny, 1972. Et l'histoire, elle est hyper captivante. Et vraiment, j'aurais pu le lire d'une traite, mais il fallait que je dorme, donc j'ai pas pu.
Moi, je crois que c'est, comme on en a parlé avant, je crois que c'est Néo. Le tome 1, je l'ai lu en moins d'une semaine, je l'ai terminé, en deux jours peut-être même. Je l'ai terminé, j'étais trop captivé, c'est mon cousin qui me l'avait prêté. Et c'était les vacances, du coup, je l'ai lu super rapidement.
Et moi, j'ai aussi lu Bobigny 1972 et j'ai beaucoup aimé. Et sinon, la série aussi, L'Arabe du Futur de Riyad Sattouf.
Ah oui, les Cahiers d'Esther. C'est mon auteur préféré, Tatou, donc j'adore aussi.
Est-ce que vous avez un livre qui vous a perturbé?
J'ai pas forcément de livre en tête, mais les livres où ça finit en suspense. Genre où t'as pas la réponse, Le Fantastique par exemple. Où t'as pas la réponse à la fin et ça me perturbe.
Moi c'était Black Boy, mais je sais plus qui c'est qui l'a écrit. Mais il y a plein de versions, mais. Je sais plus. Bref. Voilà.
Personne. Moi, j'ai rien qui me vient en tête.
Ouais, moi aussi.
Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par perturbé?
Qui
t'a choqué ou que t'as pas forcément apprécié, qui t'a dérangé, même
trucs,
t'as changé, quoi.
Temps. Une fin qui se termine pas en te satisfaisant.
Un truc où tu t'attendais vraiment pas à ça, quoi.
Ou je te pose encore des questions.
Ouais, voilà.
Le fantastique.
Non, après, il y a des bons côtés au fantastique. Genre,
oui, oui.
Shannon Bessenger, elle met toujours des suspens à la fin de ses livres. Et j'ai attendu un livre pendant 2 ans. Et il y avait toujours un suspense à la fin. Et je me pose encore des questions parce que, bah, en fait, elle a fini. Sauf que... Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspense dans le fantastique.
Une dernière question. Donc, les animateurs de la tribu. Est-ce que vous avez un livre préféré?
Je
ouais, moi aussi, je réfléchis.
Sinon, j'ai une question en attendant pour vous. Est-ce qu'il y a un registre, enfin, oui, un style de livre qui vous plaît vraiment pas, genre, je sais pas, l'horreur ou le fantastique, quoi.
Bah, l'horreur. Moi, en fait, c'est pas que je déteste ça, c'est juste que ça me parle pas parce que ça me permet pas de sortir, en fait. C'est, du coup, ça me captive vraiment pas. Genre, je peux en lire, hein, bien sûr, mais franchement, ça m'a jamais captivé.
Moi, ce serait aussi l'horreur, mais un peu pour la raison inverse, c'est-à-dire que moi, je rentre complètement dedans et du coup, après, je peux plus dormir genre pendant des mois parce que j'ai trop peur, donc j'évite.
Bah, moi, c'est la même chose, l'horreur. Mais en fait, le truc, c'est que j'aime bien en lire parce que ça donne des frissons et que ça fait peur, mais après, je dors pas, donc c'est vraiment pratique.
Moi, ce serait... Mais je sais pas s'il existe des livres vraiment comme ça, mais c'est les documentaires.
Quand... Ah, c'est une horreur.
C'est horreur.
C'est catastrophique.
Ça m'ennuie. Donc, c'est vraiment un genre que je lis pas.
Sauf pour faire des exposés, c'est pratique. Mais autrement, je vois pas l'intérêt de lire ça, en fait, dans la vie courante.
Bah, moi, personnellement, il y a des livres en fantastique que je peux pas lire. J'avais commencé à lire Les Gardiens des Cités Perdues, je crois. Et j'avais lu le 1, 2 et 3, mais après, j'ai pu continuer. Et j'avais lu Bord de Terre. Je trouvais ça vraiment enfantin et je trouvais ça un peu ennuyant. Voilà, c'est juste ça.
Je qualifierais pas ça comme ennuyant parce que bah, moi j'adore tout ce qui est fantastique. Mais c'est vrai que jusqu'au 3, je trouve que Gardien des Cités Perdues, c'est toujours un peu. Enfin, faut vraiment tenir le livre et apprécier parce qu'autrement, c'est dur à lire. Mon petit frère, personnellement, il a pas trop. Enfin, il a lu le 1 et il s'est dit non, je peux pas. Mais après, je pourrais pas être d'accord avec toi, forcément. Mais après, chacun ses goûts de livre. Donc, tu fais comme tu veux. Si tu veux continuer, si tu continues, moi, je te le conseille.
Moi, le genre que j'aime le moins, c'est l'histoire d'amour, mais où il y a que ça. C'est-à-dire que tu suis pendant tout le long une histoire d'amour. Et souvent, des fois, les livres, ils sont presque tous pareils. Ça aussi, c'est... Pas tous, mais...
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que j'avais lu Cher inconnu. En fait, c'est une jeune fille qui vit une histoire d'amour et enfin, ça parle essentiellement de ça. Il va y avoir des histoires à côté, mais ça parle beaucoup de ça et j'ai trouvé ça vraiment captivant.
Bah, moi, c'est pareil avec Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. C'est quasiment qu'une histoire d'amour, mais autour, il y a une espèce d'intrigue un peu, donc c'est intéressant quand même.
Ouais, mais c'est parce que les auteurs, souvent, ils sont doués pour ça, mais les auteurs qui sont pas forcément captivants, quoi. Qui vont faire une histoire très très monotone, ou c'est pas forcément ça qui va me. Enfin, je sais pas, je trouve ça relou.
Alors, vous nous aviez. Oui, vas-y.
Non, mais j'allais dire, et donc vous avez trouvé votre livre préféré?
Ah, bah voilà, bah, c'est ce que j'allais dire aussi. Qui veut commencer?
Moi, je réfléchis encore. Il y a tellement de livres qui me viennent en tête. Je sais pas.
Moi, j'ai une idée.
Vas-y.
Alors, on va partir sur un peu du classique, mais en fait, moi j'avais quand même adoré, c'est le dernier Harry Potter quand même. Pour moi, il était incroyable, voilà.
Mais tu parles duquel en faisant le dernier, de la pièce de théâtre ou...
Ah non, pas de la pièce de théâtre, non, pour moi, j'ai pas du tout aimé la pièce de théâtre.
J'ai pas trop aimé non plus.
En fait, je suis pas...
Elle c'est pas trop son style, quoi.
Mais aussi, je pense qu'en fait, la pièce de théâtre, elle a été faite pour rajouter... Moi, je pense qu'elle a fait ça en fait pour rajouter. Parce que le fait que. On va partir sur aussi un peu de l'argent. Parce que Harry Potter, ça lui a rapporté quand même énormément d'argent. Et je pense qu'elle a continué. Elle a fait après plein d'hors-séries. Qui sont en fait, je trouve, pas nulles. Mais en fait, comme je trouve que les Harry Potter, elle les a écrits. Elle était pas encore, ils n'étaient pas encore aussi connus qu'aujourd'hui. Et donc elle est partie sur. Parce que je sais que bah, je connais après son histoire. Elle a fait énormément de maison d'édition, elle s'est un peu battue pour ce livre. Et
Et en fait, pour les hors-série qu'elle a sorti après, bah, c'était plus. C'était, pour moi, c'était plus du Harry Potter, quoi. Donc voilà. Juste le dernier.
Dernier, voilà. Quoi. Je suis assez d'accord, je ne l'ai pas adoré non plus, mais je pense aussi qu'une pièce de théâtre, c'est quand même écrit pour être vu, enfin, pour être joué. Je ne sais pas si j'aurais toujours le même avis en le voyant sur scène.
Ouais, non, c'est vrai que le 7, pour moi, j'avais genre pas de suite. Quand j'ai appris que L'Enfant Maudit était sorti, mais que c'était vraiment la pièce de théâtre, je me suis vraiment jetée dessus et j'ai quand même été déçue parce que, en vrai, je pense qu'elle aurait pas dû faire vraiment de suite ou de continuer l'histoire de Harry. Parce que je pense que c'était bien qu'on imagine vraiment la suite et que ce soit un peu notre propre histoire que ça nous soit attribué.
Moi, juste pour compléter, j'ai trouvé que oui, L'Enfant Maudit, c'était pas forcément la meilleure suite possible à faire. Par contre, contrairement aux autres Harry Potter, j'ai trouvé que c'était un peu plus facile à lire quand c'était sous forme de pièce de théâtre.
Ok.
Bah, moi, un peu le contraire. Je trouve que c'est plus difficile à lire.
Bah après, aussi, t'as dit, elle laisse un peu d'imagination, mais pas trop quand même, parce que sur la fin du set, quand même, elle nous explique qu'il a eu...
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, l'embarcadère, joyeux anniversaire.
Bon, pour les auditeurs qui n'ont rien compris, en gros, ce qui vient de se passer, c'est qu'on était en train de parler et il y a Adeline qui est arrivée avec tout le monde dans la salle pour les 10 ans d'anniversaire de l'embarcadère. Voilà, et donc, juste pour info, ça continue aussi et tout à l'heure, il y aura les irréductibles, excusez-moi.
La fanfare.
La fanfare des irréductibles à 19h et à 16h. Voilà.
Là.
Donc dépêchez-vous si vous voulez aller les voir.
Oui.
C'est maintenant là.
Donc on disait quoi?
La fin du set.
Oui, donc en fait, la fin du set, elle explique quand même un peu ce qui se passe à la fin, qu'il a eu des enfants, etc. Mais ça nous laisse quand même du suspense ça, sur le reste. Donc t'as un peu.
Moi, mon livre préféré, en vrai, je vais rester sur Néo. Hein. C'était quand même super. L'histoire, c'est captivant. C'est tout ce qu'il faut pour moi, quoi.
On s'arrête là ou... Ok, donc c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Et
merci au comité des lecteurs de l'embarcadère d'être venu.
Okay. Et bon 10 ans.
Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, oui. Voilà. Et merci à tous et à bientôt dans la tribu. Fish, 'cause they don't have any fear.
Animals I've tried.